Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et après une césure, nous retrouvons avec plaisir Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour Aline, bonjour Sébastien.
Alors Michel, qui est administrateur au Toulousain de Toulouse, nous entretient depuis un certain nombre d'émissions sur une série « Demeures et familles » que nous allons reprendre donc à la découverte cette fois-ci de l'hôtel d'Acesa et puis de là ou de quelques familles qui ont pu se succéder dans ce magnifique bâtiment toulousain.
Voilà, pour éviter de vous lasser, on va inverser le regard, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va partir d'un bel édifice extrêmement connu, n'est-ce pas, Aline?
Ah oui, oui, tout
et
à fait.
Et on va raconter un peu qui s'est succédé dedans et hors de Toulouse. Voilà, phare de Toulouse, absolument. Phare en alors, partant de la tour de l'hôtel d'Acesa qui domine à peu près toutes les autres.
Ah, d'abord, le constructeur.
Alors, j'ai lu qu'il y avait, on avait trouvé des mosaïques de vraiment de demeures très anciennes, peut-être déjà patriciennes, après l'occupation romaine.
Sur l'emplacement de
l'hôtel.
Oui,
oui. Les fouilles qui ont été faites à l'occasion des travaux ont révélé ça. Mais le plus connu, c'est quand même Pierre d'Acesa, qui va être le créateur de cet hôtel, qui porte son nom donc, à partir des années 1550, puisque l'hôtel a été élevé même sur les plans de Nicolas Bachelier, n'est-ce pas, entre 1555 et 1557. Mais nous nous intéressons aux familles plus qu'à l'architecture, puisqu'il y a beaucoup de moyens de s'informer sur cette construction et sur ce qu'elle abrite.
Oui, peut-être en s'intéressant aux familles, on peut se poser la question de la richesse, enfin de la réussite sociale d'Acesa, en sachant que, vous me dites si je me trompe, Michel, je pense que la famille est originaire de l'Aveyron. Alors, non pas que les Aveyronnais sont prédisposés à faire fortune, bien entendu.
Ils sont économes, en tout cas, souvent.
Mais c'est un petit milieu de marchands.
Travailleurs.
Et à partir de là, ils ont eu le goût, parce qu'il y avait trois frères. Pierre était le plus jeune, je crois. Et ils ont eu le goût de se destiner aux affaires.
Alors, au XVIe siècle, première moitié, les conditions économiques sont difficiles tout de même, surtout, j'imagine, dans le Rouergue. Lorsqu'un élément, un frère de famille, un cadet ou même un aîné, c'est le cas de Pierre d'Acesa, eh bien, commence à faire d'affaires, enfin de gagner un peu sa vie, on ne peut pas rester sur place parce qu'il faut nourrir sa famille, il faut s'assurer un établissement. Et à ce moment-là, l'idée, c'est d'aller vers le centre de pouvoir, c'est-à-dire de descendre, comme on disait, ou de monter.
Oui, oui.
Choix. On monte plutôt à Paris, de oui. Descendre à Toulouse.
Oui, tout à fait.
Et donc, il va faire une rencontre. On ne sait pas comment, mais enfin, c'est certainement une rencontre fructueuse puisque...
Il n'y avait pas encore de réseaux sociaux.
On essaie avec notre grille de lecture actuelle, oui. Tu vois comment ils étaient. Bon, je pense que ça serait un sujet de thèse pour des étudiants, par exemple.
Voilà. Oui. Comment se rencontrer,
comment communiquait-il? Et donc, il fait la rencontre de Pierre Delpech, que nous connaissons, puisqu'on évoque à chaque fois qu'on parle du pastel, du commerce florissant du pastel. Ce Pierre Delpech, Aline, on le rencontre...
On le rencontre très tôt dans l'environnement de la famille Acesa. C'est un marchand de pastel. Et il va apprendre les rudiments du métier aux trois frères. Et après, il va être admis dans la parenté.
Alors après, dans les générations qui suivent, il y a on présente les enfants et en général, ce qui doit arriver arrive. Mais dans la corbeille des mariages, il y a aussi des engagements à reprendre le patrimoine, c'est-à-dire à créer une dynastie. Et c'est le cas de Pierre d'Acesa, puisque il va, pour assurer sa dynastie, sa descendance, passer par le capitoulat. Donc il est capitoul avant même l'achèvement de l'hôtel d'Acesa, je crois 1552, et puis il est une fois qu'il habite l'hôtel, je crois qu'il est déjà dedans, et avec le capitoulat, qu'est-ce qui s'assure, Aline?
Bien, la proximité du pouvoir.
La proximité du pouvoir. Donc l'accès oui. aux meilleurs architectes, nous l'avons dit, Nicolas Bachelier, et même son fils qui achèvera l'hôtel. Non seulement ça, mais aussi, ce qui n'est pas tout à fait, je crois que c'est plus tardif, hein, l'ordonnance qui assure la noblesse au capitoul, la noblesse de Rome.
On acquiert la noblesse.
Voilà. Oui. Mais bon, ça fait partie des buts.
Le droit de se faire portraiturer aussi.
Et au milieu du XVIe siècle, tout ça est déjà bien établi. Donc, il a les clés, avant d'avoir celles de l'hôtel lui-même, il a les clés d'un homme de pouvoir et d'influence. Cette influence, elle est également nourrie par ses recherches personnelles. Alors, on ne sait pas, mais il a peut-être fait le grand tour, il a peut-être été mis en contact avec des...
Son cursus, on va dire, d'apprentissage. Il est allé à Rouen, il est allé sur d'autres... il n'est pas venu à Toulouse et resté à Toulouse tout le temps. Il est parti à l'extérieur. Et ses deux frères, bon, avant de décéder, et dont il va hériter d'ailleurs, sont partis travailler Londres, Anvers. Ils étaient déjà dans le circuit.
Dans le marché international, oui. On dirait aujourd'hui.
Delpech étant toujours un bon conseiller.
Eh oui. Alors, il faudra s'intéresser un jour à ce Delpech. Mais sa famille, je ne sais pas s'il a une descendance qui a vraiment, produit du patrimoine, qui a fabriqué du patrimoine, comme ces personnes qu'on est en train d'étudier. En tout cas, Hacésat traduit bien, l'architecture traduit bien cette culture qu'on retrouve dans les traités de Serliot, hein, et qui est donc toute une grammaire qu'on lit à travers les pierres et la composition briques et pierres, mais aussi derrière tout ce que ça véhicule de savoir, de science et d'accueil.
Oui, puis c'est une architecture savante qui contraste avec l'architecture
assez banale.
Oui. Et ça traduit quand même la fortune de cet homme, parce que il a de l'argent. Et il se fait construire une très belle maison.
Oui. Et vous avez dit savante, l'architecture savante. Peut-être vous anticipez. Cette belle architecture savante va accueillir plus tard, nous en parlerons si nous avons le temps, ou une prochaine émission, nos principales sociétés savantes de Toulouse.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a vraiment des connexions, des fils qui se tissent entre eux.
Tout à fait.
Mais avant d'arriver là, il s'est passé quand même beaucoup de choses au XVIe siècle. On aurait pu perdre à Césat. Pas lui, mais l'hôtel. C'était un grand dommage. En effet, parce que, vous l'avez dit, il bouge. C'est un homme qui ne reste pas à demeure. Mais il est converti, il se convertit au calvinisme. Au moment où c'est le moment le plus opportun. Et seulement, il va peu profiter de l'hôtel d'Hacésat, sa demeure, puisque 1562 arrive. C'est la fameuse année que nous évoquons en plusieurs reprises. Il est chassé de la ville et dépossédé de son hôtel après le fameux coup de force des 12 et 17 mai, qui a été organisé par plusieurs capitouls, qui étaient tous protestants. Ça, je ne comprends pas bien qu'ils se bagarrent entre eux.
Oui, je pense qu'à César, enfin, d'après ce qu'on peut lire, à César, évidemment, commerçait beaucoup avec les pays du Nord, hein. Et on dit que les ballots de pastel partaient à Amsterdam et revenaient avec des bibles.
Ah oui.
Et que, voilà.
Bon, et imprimés à Anvers, ou pas.
Oui, c'est du récit. C'est du récit. Mais ça veut dire que... Et ça rejoint un petit peu les conversions des capitouls, qui, eux, étaient quand même aux affaires. Et étaient au fait des pratiques commerciales.
C'est ça. Local.
Et les plus brillantes, parce que le pastel
rapportait beaucoup. Et beaucoup.
Belle époque.
Oui, brève époque. Mais la durée aussi du capitula était brève, puisque c'était sur une année,
on le sait. Oui, oui.
Un an. Mais enfin, il se renouvelait quelquefois.
Ça se tournait dans les familles aussi.
Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, pour finir ce tableau d'entrée, puisque l'hôtel d'Hacésat égale tableau, n'est-ce pas? Collection de tableaux. Nous y reviendrons. On peut s'attarder un instant sur ce fondateur, Pierre d'Hacésat, et finalement la dernière partie de sa vie qui est moins heureuse, moins brillante. Mmh. Dans le sens où, après ce coup de force, il a été mis en jugement. C'est-à-dire que, bon, il y a eu un épisode, on est au XVIe siècle, hein, c'est guerrier, enfin, c'est proche de guerre civile, on peut même le dire, bousculé. Et il a fait l'intervention de Blaise de Montluc, qui est quand même une personnalité du Sud-Ouest, qui a bloqué l'arrivée des renforts huguenots commandés par le vicomte d'Arpajon et fait échouer cette tentative de sortir les capitouls. Et au moment où Pierre Assézat passe en jugement, Montluc va faire une demande à Catherine de Médicis, hein, on est dans les 1562, elle est encore aux affaires, même si elle est que reine-mère, et régente du royaume, bien sûr, de lui donner l'hôtel d'Assézat pour en faire sa résidence. Donc, on sent que ça va lui échapper. Mmh. Hein, alors, est-ce qu'on a des gravures ou, on ne sait pas, au XVIe siècle, vraiment. Ça a été achevé, enfin... Mmh. Il y a eu des campagnes de remaniement,
oui, ça,
et de restauration.
Je ne sais pas vous dire. Oui.
Bon. Mais en tout cas, les choses vont et viennent. Le roi Charles IX, après les troubles, ordonne au Parlement de Toulouse de faire jouir les capitouls condamnés du bénéfice de l'édit, de pacification, et de les remettre en position de leurs biens. Ce qui fait qu'Assézat revient chez lui, à Assézat.
Il était parti dans l'intervalle, il était parti ailleurs, je suppose.
Oui.
Il n'était pas resté à Toulouse, non. Une fois...
À Bordeaux, c'est pas
Bordeaux.
Très loin.
Ah voilà. Oui, donc, pour les Toulousains, il est très exotique.
Oui. Enfin, il a été enfermé, hein, au château Trompette. Mais enfin, écoutez, ça m'entraînerait bien loin. J'espère avec une bonne bouteille. Voilà, pour finir cette présentation du patrimoine à Assézat, je pense qu'on peut finir sur une note un peu plus heureuse, puisque Assézat a... Alors, je ne sais pas si c'est heureux de le dire, mais en tout cas, heureux pour lui. Il a décidé d'abjurer la religion réformée en 1572, dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux, justement, devant l'archevêque, et il a prêté serment. Alors, il y a beaucoup de calculs, hein, dans ces...
Oui, bien sûr, le
temps.
Oui.
Et il prête serment de fidélité au roi entre les mains du lieutenant-général. Voilà.
Bon, donc, voilà donc, si on peut dire, un heureux dénouement.
Oui, jusqu'à sa mort en 1581. Il reste quand même, la famille reste propriétaire après lui jusqu'en 1761, mais nous verrons peut-être.
Donc
ultérieurement.
Voilà, il va passer dans d'autres mains.
Oui.
Si j'ai bien compris.
Il restait trois siècles quand même
dans la famille. Ah oui, dans la famille d'Assézat.
16e, 17e.
Mais merci beaucoup, Michel, pour cette première partie des vocations d'Assézat.
Bonne semaine.
Au revoir.